Ils sont venus offrir un culte. Et le texte que Pierre-Jean a choisi, qui se trouve dans Marc chapitre 2, nous lirons les 12 premiers versets.
Quelques jours plus tard, Jésus se rendit à nouveau à Capernaum. On apprit qu'il était à la maison. Une foule s'y assembla, si nombreuse qu'il ne restait plus de place, pas même devant la porte. Et Jésus leur annonçait le message de Dieu. On lui amena un paralysé porté par 4 hommes.
Comme ils ne pouvaient l'aborder, à cause de la foule, ils découvrirent le toit de la maison où il était. Et ils descendirent par cette ouverture le lit sur lequel le paralytique était couché. Jésus, voyant leur foi, dit au paralytique : « Mon enfant, tes péchés sont pardonnés. » Il y avait là quelques scribes qui étaient assis et qui se disaient au-dedans d'eux : « Comment cet homme parle-t-il ainsi ? Il blasphème. Qui peut pardonner les péchés, et si ce n'est Dieu seul ?»
Jésus, ayant aussitôt connu par son esprit ce qu'ils pensaient au-dedans d'eux, leur dit : « Pourquoi avez-vous de telles pensées dans vos cœurs ? Lequel est le plus aisé de dire au paralytique « Tes péchés sont pardonnés » ou de dire « Lève-toi, prends ton lit et marche. »
Or, afin que vous sachiez que le Fils de l'homme a sur la terre le pouvoir de pardonner les péchés, je te l'ordonne, dit-il au paralytique, « Lève-toi, prends ton lit et va dans ta maison. » Et à l'instant, il se leva, prit son lit et sortit en présence de tout le monde, de sorte qu'ils étaient tous dans l'étonnement et glorifiaient Dieu, disant « Nous n'avons jamais rien vu de pareil. »
C'est une belle histoire qui vient de nous être lue. Et j'espère que nous allons pouvoir sortir tout le symbolisme de cette histoire. Mais avant tout cela, je voudrais quand même que vous sachiez que l'année prochaine sera l'année de la santé. Et à cet effet, la conférence générale a édité un livre missionnaire qui sera donc distribué en masse sur la santé. La semaine dernière, je me trouvais avec notre équipe de l'Union à Sofia, en Bulgarie. Il y avait là le président de tous les adventistes du septième jour, de la conférence générale donc, Ted Wilson. Et déjà, en Bulgarie, ils ont sorti le livre et il a été consacré pour que la puissance de ce livre puisse parvenir à tout le monde en Bulgarie. Et je pense que l'année prochaine, nous devrions nous aussi lancer ce livre avec puissance. Pour quelle raison ? Parce que avant de prêcher, avant de donner la bonne parole, Jésus soulageait les maux. Jésus guérissait. Il voulait que la parole tombe dans un cœur sain, dans un corps propre, un corps réparé. Et c'est important pour nous, qui sommes chrétiens adventistes, de pouvoir conserver cette santé que Dieu nous a donnée. C'est le thème également de la semaine de prière que nous allons devoir vivre ensemble cette semaine. Et je vous invite à fréquenter ces réunions assidûment. Elles nous font du bien. Et la prière également. Le fait de nous rassembler pour prier nous fait également beaucoup de bien. On vous a lu cette belle histoire qui est arrivée donc à Capernaum, mais j'aimerais un petit peu placer cette histoire dans le contexte. Nous trouvons déjà dès le départ, au début du ministère de Jésus. Il n'a pas encore l'ensemble de ses disciples auprès de lui, il n'y en a que 4. Quand nous reprenons dans le Marc au chapitre 1er, quand nous reprenons dans le Marc au chapitre 1er, les derniers versets ou tout le chapitre de Marc, eh bien, nous voyons que Jésus vient donc au bord du lac de Gethsémané et il prend avec lui quatre hommes. D'abord, il y a Simon et son frère André, et ensuite Jacques et son frère Jean, tous deux, nous dit la parole de Dieu, sont fils de Zébédée. Et tous les quatre sont pêcheurs, et ils accompagnent Jésus. Ils laissent leurs affaires, ils laissent tout pour accompagner Jésus. La réputation des affaires, ils laissent tout pour accompagner Jésus. La réputation de Jésus est déjà bien établie en Galilée, parce qu'il a déjà opéré de nombreux miracles, et il a également fait de nombreuses, au moins une délivrance. Et tout cela, nous pouvons le lire dans le contexte, dans Marc chapitre 1, à partir des versets 29 et suivants. Jésus est descendu dans une maison à Capernaum, mais au fait, savez-vous ce que veut dire Capernaum ? Capernaum veut dire village ou ville de la consolation. Et Jésus descend dans cette maison, maison de la consolation, où il y a donc la belle-mère de Simon, qui est malade. Elle a la fièvre et Jésus va l'en délivrer. Et cette femme va aussitôt se mettre au service de Jésus. On voit aussi dans le contexte la délivrance d'un homme possédé. Et aussitôt, cet homme va également prêcher, dire ce que Jésus a fait pour lui. Nous voyons aussi un lépreux qui va être guéri. Et Jésus lui dit, mais tais-toi, va et rentre chez toi. Mais qu'est-ce que va-t-il faire? Eh bien, au contraire, il va aller raconter ce que Jésus a fait pour lui. À tel point que Jésus ne peut plus marcher sans qu'il y ait une foule tout autour de lui. Et il est obligé de partir, d'aller dans le désert. Et nous arrivons donc dans le texte que nous avons lu tout à l'heure, au chapitre 2, quelques jours après, Jésus revint à Capernaum. On apprit qu'il était à la maison et il s'assembla un si grand nombre de personnes que l'espace devant la porte ne pouvait plus les convenir. Il faut se souvenir que nous sommes en Orient et dans ce pays, nous recherchons l'ombre. Les maisons sont construites en carré et à l'intérieur, il y a une cour. C'est l'espace dont parlait la parole de Dieu, cet espace. Et dans cette cour, eh bien, il y a tellement de monde. Et dans cette cour, eh bien, il y a tellement de monde que peu d'autres personnes peuvent y rentrer. Et la porte est obstruée par toutes ces personnes. Alors, Jésus parle, c'est ce que nous dit la parole, il leur annonçait la parole. Non loin de là se trouve un paralytique. Et Ted Wilson nous parle de cet homme. Dans ce qu'il a écrit, il nous exprime la situation de ce paralytique qui était déprimé et découragé. Il avait perdu tout espoir de guérison. Rempli d'amers remords, il savait que sa maladie était la conséquence du péché. Il était malade physiquement, mentalement, socialement et spirituellement. Il avait eu l'espoir que les chefs religieux pourraient lui apporter un soulagement, mais ceci s'était évanoui quand on l'avait froidement déclaré incurable. Impuissant et abattu, il passait ses journées dans la souffrance et les regrets. Puis, il entendit parler de Jésus. Il apprit que d'autres, aussi pécheurs et désespérés que lui, avaient été guéris. Ses amis voulaient l'emmener auprès du maître, mais ses espoirs faillirent quand il se souvint que sa maladie était le résultat de son péché, dont il voulait être soulagé du poids. Il voulait voir Jésus et et recevoir l'assurance du pardon. Il n'y avait pas de temps à perdre. Déjà, sa chair se décomposait. Il demanda à ses amis de le conduire à Jésus et ils furent heureux de pouvoir l'aider. Qu'il est merveilleux, n'est-ce pas, d'avoir des amis spirituels qui vous aident à voir Jésus. Ces hommes ont la foi, ces hommes croient profondément à la puissance de guérison de Jésus. Ces hommes ont la foi qui soulève les montagnes, ils ont la foi qui soulève aussi les toits. L'homme paralytique était désespéré. Comment pouvait-il être si proche de Jésus et en même temps si loin? Il était convaincu que Jésus était son seul espoir de paix et de pardon. Il était prêt à tout pour le voir. Alors, il imagina un plan plutôt risqué. Il demanda à ses amis de le faire entrer dans la maison par le toit. Pour comprendre cette opération difficile et qui dénote le dévouement des hommes qui portaient le malade, il faut se souvenir qu'en Orient, les maisons ont un toit plat qui sert de terrasse et on peut y accéder par un escalier qui se trouve à l'intérieur de la maison. Mais ce passage était obstrué par la foule et les porteurs y parvinrent soit par un escalier extérieur, soit alors en passant d'un autre toit d'une autre maison. Alors, arrivés sur la plateforme, ils enlèvent quelques dalles, puis percent une ouverture dans la couche de bitume et de roseau qui recouvrait les dalles, et après avoir de la sorte couche de bitume et de roseau qui recouvrait les dalles, et après avoir de la sorte pratiqué un passage au-dessus de la place où se tenait Jésus, ils descendirent le malade au pied du Sauveur, dans la salle où il parlait au peuple. Rendez-vous compte, un brancard traverse le toit et arrive au pied de Jésus. Le Sauveur regarda les yeux suppliants de l'infirme. Il comprit parfaitement la situation, car c'est lui qui avait donné de l'espoir. L'homme attendit qu'il prononce les mots du pardon. Comme la foi de cet homme était grande, n'est-ce pas? Une foi qui traverse les toits. Je m'imagine facilement cette scène. Jésus est assis dans une pièce sombre. Pourquoi sombre? Parce qu'il y a tellement de monde dans la cour, il y a tellement de monde devant la porte qu'il n'y a pas de clarté. Il n'est pas inquiet. Il est là, il donne son message à tous ceux qui sont dans la pièce. Et subitement, lui qui est concentré sur son message, voit soudain le toit se fissurer, voit le toit se déchirer et le ciel s'ouvrir. Descend alors sur lui, non pas une colombe, mais un infirme, couché sur une civière, soutenu à bout de bras par quatre hommes. Quelle belle image de compassion par quatre hommes. Quelle belle image de compassion. Quelle belle image de solidarité dans cette ville, dans ce village, que l'on nomme ville de la compassion. Le paralysé est celui qui n'est plus maître de ses muscles et de ses mouvements. Il est comme un petit enfant. Il dépend de l'autre. Il a besoin de l'autre pour vivre. Si nous considérons ce handicap d'un point de vue symbolique, nous constatons qu'il empêche toute action, tout engagement, toute idée de partage et d'entraide. Ce n'est donc pas seulement l'action d'elle-même qui est paralysée, mais surtout l'esprit, la pensée qui la commande. D'une certaine façon, nous sommes tous un peu comme ce paralysé, parce que chacun d'entre nous avons besoin de l'autre, nous dépendons de l'autre. Nous avons tous besoin les uns des autres. Mais qu'est-ce qui nous paralyse autant? Sans doute l'angoisse et la peur, qui sont les sources principales du mal en nous. Ça peut être l'angoisse devant les défis de la vie, la peur de l'autre et de l'inconnu, d'où nous sommes des fois des impuissants, nous culpabilisons. Toujours sur le plan symbolique, je me pose la question, si nous ne sommes pas comme cette foule, massée devant cette porte qui fait barrage au plus faible qui voudrait y entrer et entendre Jésus. Mais qu'est-ce qui fait barrage? Oui, cette foule fait barrage. Peut-être nos critiques qui nous empêchent de faire entrer des hommes et des femmes qui veulent entendre parler de Jésus. Notre manque de foi. Notre désobéissance. À l'époque de Jésus, on explique les maladies par le péché. C'est ce que faisaient déjà les amis de Job, vous vous souvenez, pour justifier ses souffrances. C'est ce que croient même les disciples de Jésus quand ils lui demandent, en voyant un aveugle de naissance, qui a péché? Est-ce ses parents ou est-ce lui pour qu'il soit né aveugle? Et il est vrai que même aujourd'hui, les médecins s'accordent à reconnaître que les sentiments négatifs, la haine, s'accordent à reconnaître que les sentiments négatifs, la haine, la rancune, l'amertume peuvent retentir sur la santé, expliquer l'apparition de toutes sortes de désordres et d'affections diverses. Jésus voit la souffrance de cet homme, éprouvé dans son corps, mais aussi dans son esprit. Il voit la culpabilité liée au sentiment de péché. Alors il lui dit, « Mon enfant, tes péchés te sont pardonnés. » Commentant cette phrase, Ellen White dit, « Écoutez bien. Ces mots furent une douce musique aux oreilles du paralytique. Le poids du désespoir tomba de ses épaules pour être remplacé par la paix et le pardon. Avec une foi simple, il accepte les paroles de Jésus comme une promesse de vie nouvelle. Il ne demande rien de plus. Accablé par une béatitude trop grande pour être exprimée, une céleste lumière éclaire ses traits et la crainte saisit ceux qui contemplent la scène. Les chefs religieux égoïstes qui étaient présents se regardèrent, se souvenant de la façon antipathique dont ils avaient rejeté ce pauvre infirme. Dans leur cœur, ils accusèrent Jésus de blasphème et pensèrent aussitôt qu'il pourrait utiliser ce prétexte pour le condamner à mort. Fixant son regard sur eux, en lisant leurs pensées, Jésus leur dit, et je vous invite à prendre avec moi le texte dans Marc au chapitre 2, les versets 9 à 11. Lequel est le plus aisé de dire au paralytique, « Tes péchés sont pardonnés ?» ou de dire « Lève-toi, prends ton lit et marche. » Or, afin que vous sachiez que le Fils de l'homme a sur la terre le pouvoir de pardonner les péchés, je te l'ordonne, dit-il au paralytique, « Lève-toi, prends ton lit et va dans ta maison. » Alors, cette phrase de Jésus signifie-t-elle que cet homme est réellement un pécheur au départ? Oui. Mais comme tout homme aussi, ainsi que le dit l'apôtre Paul dans le livre des Romains, tous ont péché et sont privés de la gloire de Dieu. Nous le savons tous, le péché, qui est le fait de faire le mal, est en fait la rupture ou l'imperfection de notre communication avec Dieu. Nous avons tous besoin d'être guéris. Dieu seul peut nous guérir. Dieu seul peut nous pardonner en nous accordant gratuitement sa grâce. Comme nous le dit la suite du texte dans Romains 3, 23, et ils sont gratuitement justifiés par sa grâce. Oui, frères et sœurs, Jésus accorde sa grâce sans attendre une demande de pardon du paralytique, comme d'ailleurs le Père dans la parabole du Fils prodigue. Et voilà qu'à l'invitation de Jésus, le paralysé se lève. Image de la future résurrection. Parce qu'en grec, il faut savoir que le mot « se lever » et « ressusciter » sont les mêmes mots. Et c'est bien à une nouvelle vie qu'il est appelé, guéri totalement, à la fois dans son âme et dans son corps. Il est appelé du même coup à se mettre lui aussi en marche, comme viennent de le faire ses amis pour lui, c'est-à-dire à servir. Jésus guérit pour que l'on se mette en route, qu'on marche à la suite, à sa suite, comme la belle-mère de Simon. Le texte nous dit, s'étant approché, il la fit lever en lui prenant la main, et à l'instant, la fièvre la quitta. Puis, elle le servit. Ce que confirment d'ailleurs les béatitudes, où le mot « heureux » traduit en fait l'expression « en marche ». Oui, lorsque nous sommes touchés par la grâce de Dieu, lorsque nous sommes guéris par Dieu, nous devons nous lever et marcher. Notre part, c'est donc à l'appel de Dieu de nous mettre en mouvement vers lui et de faire le premier pas, sachant alors que lui fera les 99 autres. Cette marche accompagnée n'implique pas pour autant la suppression de toute difficulté ni de toute cicatrice du passé, telle la trace des clous qui subsistent dans le corps glorieux de Jésus. On peut être amené à porter encore son grabat, un passé qui n'est pas gommé, mais que l'on peut gérer parfaitement. Dans notre monde, plus de 50% de la population vit dans les villes. Aussi, le pasteur Ted Wilson nous lance cet appel. Quel que soit votre métier, joignez-vous à votre Église pour la grande mission qui consiste à toucher les habitants des villes de ce monde. Suivez l'exemple du Christ et atteignez les nécessiteux là où vivent les masses. Unissez-vous au peuple de Dieu dans le monde entier, dans l'initiative spéciale de mission dans les villes. Et je suis personnellement heureux de voir que dans notre Église, eh bien, les jeunes se sont engagés pour cette mission, d'aller vers les plus démunis de la commune. Dans le livre « Ministère médical », nous lisons ces paroles. Il n'y a pas de changement dans le message que Dieu nous a donné dans le passé. L'œuvre dans les villes est essentielle pour ce temps. Quand on travaille dans les villes comme Dieu le souhaite, le résultat sera la mise en œuvre d'un mouvement puissant, comme encore jamais vu auparavant. Frères et sœurs, ce mouvement puissant est encore à venir. Nous devons étudier, nous devons prier, nous devons nous humilier et rechercher la volonté de Dieu pour nous qui sommes son peuple. En plaidant pour la pluie de l'arrière-saison du Saint-Esprit, de manière à que ce mouvement puissant se produise. Nous voulons voir le retour de Jésus, n'est-ce pas ? Le monde s'épuise et je crois de tout mon cœur, dit Ted Wilson, que le retour littéral du Christ est à la porte. Suivons son exemple et allons dans les villes pour toucher les âmes là où elles se trouvent. Matthieu, au chapitre 9, explique que Jésus, quand il voyait les foules, était ému de compassion à leur sujet, car elles étaient fatiguées et gisantes comme des brebis qui n'ont point de berger. Christ nous appelle, vous et moi, à choisir pleinement en lui, à être en bonne santé à tout point de vue, par la présence du Saint-Esprit, afin que nous soyons des bergers pour ceux qui sont abattus. Nous devons également user la compassion.